Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Et rebonjour à tous dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine, bien sûr, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, Emmanuel Macron toujours à Marseille, mais cette fois au chevet de la planète. 15% des diabétiques toujours pas vaccinés contre le Covid, ils sont pourtant à risque. Et puis François Fillon peut-être bientôt rattrapé par une nouvelle affaire.
Juste après le journal, vous en avez pris l'habitude, on décrypte, on échange, on débat. Les directeurs d'école doivent-ils choisir leurs enseignants? C'est ce qu'a annoncé hier Emmanuel Macron à Marseille. Faut-il généraliser la mesure?
Et c'est justement la question du jour sur RTL.fr. Vous dites oui à 45%, non à 50%, plutôt partagé. Donc.
Et le deuxième sujet, Nicolas Sarkozy fera-t-il l'élection à droite? Les candidats à la primaire, en tout cas, se pressent pour le rencontrer. Franck Louvrier, son ancien conseiller, maire de La Baule, sera l'invité d'RTL Midi.
La météo, c'est avec vous, Claire Delorme. Bonjour Claire.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Et c'est donc une journée estivale.
Absolument, avec des orages sur la moitié sud qui seront plus marqués sur le golfe du Lion et les Pyrénées. Et au nord de la Loire, un très beau soleil dont on pourra profiter avec des températures plutôt sympathiques, comprises entre 23 et 27 degrés.
Merci, à tout à l'heure, 13h.
RTL Midi.
Et pour commencer, direction Marseille, au lendemain de son grand discours d'hier, Emmanuel Macron a donné ce matin le coup d'envoi du Congrès mondial de la nature. Balade en bateau dans les Calanques, image d'un président au chevet de la planète, William Galibert.
Oui, et accessoirement au chevet de son image de président écolo, cette image qu'il a tant de mal à cultiver aux yeux de l'opinion, et ça peut toujours servir, tiens, au hasard, pour une future campagne. Alors pour la carte postale, Amandine, Emmanuel Macron ne pouvait pas rêver mieux, embarquement sur une goélette et le soleil qui perce enfin les nuages pour éclairer les Calanques. C'est un joyau de la Méditerranée, joyau à protéger de la pollution au plastique, comme d'ailleurs l'ensemble des océans. L'Élysée nous promet des annonces très fortes sur le sujet cet après-midi, mais... parce qu'il y a un mais, il n'y a pas que la houle et les petites vaguelettes qui sont venues pimenter la balade en mer du président. Sur son bateau, il a croisé une vieille connaissance, j'ai nommé Nicolas Hulot, ex-ministre, mais toujours empêcheur de faire des ronds dans l'eau. Nicolas Hulot nous a confié qu'il avait un message à faire passer au président. Emmanuel Macron, d'après lui, n'a pas assez prévu de moyens pour défendre la biodiversité dans son dernier plan de relance.
William Galibera à Marseille pour RTL. Alors l'objectif de ce congrès mondial de la nature, c'est d'abord d'alerter. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour à tous.
Il y a un chiffre qui nous a interpellés ce matin, et pas qu'un peu. Hein. En 50 ans, ce sont 2/3 des animaux qui ont disparu, c'est énorme.
Oui, et même un peu plus, 68%. Alors on parle des vertébrés, donc des mammifères, des poissons, des oiseaux, des amphibiens et des reptiles. Leurs populations ont chuté depuis 1970. Ce chiffre, il est calculé par la Société zoologique de Londres et le WWF à partir de données scientifiques collectées sur 21 000 espèces. Alors, les causes sont la surpêche, la déforestation, l'agriculture intensive. On détruit l'habitat des animaux. Par exemple, il y a moitié moins de poissons dans la mer qu'il y a 50 ans. Et le but de ce sommet, c'est justement d'inverser la courbe, que le nombre d'animaux se remette à augmenter d'ici à 2030.
Merci beaucoup Virginie. Virginie Garin pour RTL.
Autre chiffre qui concerne cette fois le Covid, 15% des diabétiques ne sont toujours pas vaccinés.
On sait pourtant que c'est un facteur aggravant. La Fédération française des diabétiques lance donc une grande campagne de mobilisation.
Ce qui nous inquiète, c'est de voir que ceux qui n'étaient pas vaccinés, c'est des gens qui déclarent avoir un diabète mal équilibré ou avoir des complications du diabète ou d'autres pathologies. Donc, c'est des personnes les plus vulnérables. Le rapport bénéfice-risque, il est considérable. Il n'y a pas photo. Les contre-indications, elles sont exceptionnelles. C'est tous ces arguments qu'il faut défendre. La première source d'information que recherchent les patients, c'est auprès de leurs professionnels de santé. C'est pour ça qu'on veut sensibiliser les pharmaciens, les médecins traitants et les infirmières, parce que eux, ils peuvent convaincre les gens. C'est comme ça qu'on y arrivera.
Jean-François Thébault, le vice-président de la Fédération française des diabétiques, joint pour RTL par Odile Pouget. RTL qui vous le révélait ce matin, François Fillon pourrait être renvoyé devant la justice pour une nouvelle affaire. Le parquet financier enquête en effet depuis 2017 sur un autre de ses assistants parlementaires à qui il a demandé de coécrire son livre. Toute la question, c'est de savoir si cela fait partie ou non des missions d'un collaborateur de l'Assemblée. Eh bien, pour Maître Antonin Lévy, l'avocat de François Fillon, c'est oui.
Si on nous dit qu'un collaborateur parlementaire ne peut pas contribuer à l'expression politique d'un député. On en arrive vraiment aux confins de l'absurde. Et il est très choquant de voir que cette enquête est en cours depuis 4 ans. Elle traite en réalité exactement du même sujet que la première. Et on voit que le parquet national financier conserve ce dossier sous le coude, presque dans ses tiroirs au cas où, et qu'on va nous le sortir opportunément au moment du procès en appel. Je ne peux que y voir d'abord un deux poids deux mesures et ensuite une vraie forme d'acharnement.
Je crois que la somme est de 38 000 euros, hein, les sommes qui sont en cause.
L'avocat François Fillon, micro RTL.
C'est assez faible quand même comme somme, disons-le.
De Thomas Proto, l'ancien Premier ministre, on le rappelle, doit être jugé en appel à l'automne, donc pour l'affaire principale, l'affaire Pénélope. Autre info RTL, Marine Le Pen qui refuse de débattre avec Éric Zemmour, comme l'avait proposé ce matin Robert Ménard, le polémiste, lui, en revanche, a accepté. À Conflans-Sainte-Honorine, les anciens élèves de Samuel Paty font aujourd'hui leur rentrée au collège Bois d'Aulne, près d'un an après l'assassinat épouvantable de ce professeur. Vous êtes retourné sur place, Valentin Boisset, bonjour.
Bonjour.
Une grande partie de l'équipe pédagogique a tout simplement quitté l'établissement.
Oui, une rentrée sous le signe du renouveau a commencé donc par la direction de l'établissement, nouvelle principale, nouvelle CPE, nouvelle infirmière aussi, et changement de psychologue. Alors selon les fédérations de parents d'élèves, un nombre conséquent de professeurs auraient également demandé de nouvelles affectations, car certains ne pouvaient plus rester dans ce collège. Et pour ceux qui y sont encore, leur entourage décrit une équipe soudée par la tragédie. Alors de fait, beaucoup d'anciens élèves de Samuel Paty sont désormais au lycée. Il y a de nouveaux professeurs et avec tous ces changements dans les classes, il y a finalement eu assez peu de références depuis hier aux événements de l'an dernier. Une rentrée presque normale, donc, pour citer un élève, à ceci près que visuellement, le collège est désormais barricadé derrière de grandes barrières de plusieurs mètres de haut. Une appréhension revient tout de même dans les discussions, celle de voir les souvenirs ressurgir pour les 1 an de l'assassinat le 16 octobre prochain.
Enquête signée Valentin Boisset pour RTL. Merci à vous.
Et puis, il y a un élève qui n'est pas entré en classe.
Oui, le petit Soufiane dont on vous parle depuis 2 jours sur RTL, ce petit garçon bloqué à Kaboul avec sa famille.
On est coincé en Afghanistan.
Ton papa me disait que tu avais un petit peu pleuré.
Oui, oui.
Tu peux m'expliquer pourquoi ?
Parce que l'école, aujourd'hui, il a commencé.
Soufiane, 8 ans qu'on vient d'entendre, vit en temps normal à Lyon. Il est d'ailleurs né en France, mais a été parti avec son père, sa mère, son petit frère et sa petite sœur voir leurs proches le temps des vacances à l'école des Géraniums dans le quartier de la Duchère où il est scolarisé. Les parents d'élèves sont très inquiets.
Je suis maman aussi, j'ai un enfant et je trouve que leur situation elle est horrible. Il faut qu'ils rentrent en France. Il faut que les enfants puissent reprendre leur vie, il faut qu'ils soient en sécurité. Ma fille pensait qu'ils étaient juste pas rentrés de vacances. On ne sait même pas quand ils vont rentrer, on ne sait pas comment ils vont rentrer. Enfin, je ne sais pas, c'est ingérable.
Pensez aux enfants.
Ouais. Et à la maman. Et à la maman.
L'inquiétude de cette mère d'élève de l'école des Géraniums dans le quartier de la Duchère à Lyon, des propos recueillis pour RTL par Frédéric Perruche. À l'étranger, 2 infos à retenir ce midi. Cet attentat, d'abord en Nouvelle-Zélande, 6 personnes blessées au couteau par un homme proche de l'État islamique dans un supermarché d'Auckland. L'individu a finalement été abattu. Et puis à New York et dans le New Jersey, le bilan continue de s'alourdir après les inondations au record de ces derniers jours. On se souvient de cette eau qui s'est déversée dans le métro. Au moins 44 morts selon le dernier bilan. La plupart ont été pris au piège, noyés dans des logements en sous-sol. Et puis le foot, après la blessure d'Mbappé, grosse frayeur pour l'autre star du PSG, Lionel Messi. L'attaquant qui jouait hier avec l'équipe d'Argentine lors des qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde a été victime d'un violent tacle face au Venezuela. On l'a vu rester au sol de longues minutes, se plaignant du genou gauche. A priori, plus de peur que de mal, puisqu'il a repris le match et le match a finalement été remporté par l'Argentine qui s'impose 3-1, Pascal.
Deux débats, deux focus, comme tous les jours. Les directeurs d'école doivent-ils choisir leur enseignant? C'est ce qu'a annoncé hier Emmanuel Macron à Marseille. Faut-il généraliser cette mesure? Et puis Nicolas Sarkozy est-il toujours le parrain de la droite? Est-ce que c'est lui qui fera l'élection en 2022? On sera avec Franck Louvrier tout à l'heure.
RTL. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Faut qu'on ait des directeurs d'école à qui on permet d'avoir un peu plus d'encadrement. Faut que ces directeurs d'école ils puissent choisir l'équipe pédagogique.
C'est l'une des mesures phares annoncées hier par Emmanuel Macron à Marseille et c'est le premier débat d'RTL Midi, faire en sorte que les directeurs d'école puissent eux-mêmes choisir leurs enseignants. Pas question de faire ça partout, en tout cas pas pour l'instant. Le chef de l'État a évoqué 50 écoles laboratoires, mais pour les syndicats, la réponse est claire, c'est non. Ils n'en veulent pas écouter Virginie Aclioua, institutrice et secrétaire départementale du SNUIPP, le premier syndicat du primaire.
Ça, c'est du jamais vu. Les directions d'école vont choisir les enseignants qu'ils veulent pour travailler avec eux. Et ça crée un lien hiérarchique, forcément, entre la direction d'école d'un côté et les enseignants de l'autre. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Ça n'existe pas dans l'éducation nationale. Les enseignants y mettent des vœux pour aller travailler sur des écoles et obtiennent ces écoles-là en fonction d'un barème, selon certains critères objectifs. C'est ce qui garantit la transparence et l'équité de traitement entre tous. C'est abominable d'entendre des choses pareilles.
Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Abominable.
Abominable, dit cette représentante du SNU-IPP. Alors Marie Guerrier, vous êtes, je le rappelle, notre spécialiste éducation ici à RTL. On va faire un peu de pédagogie avec vous. Un directeur d'école aujourd'hui, il ne choisit pas ses enseignants et il n'a d'ailleurs aucun pouvoir sur eux.
Non, il n'y a pas d'autorité hiérarchique. En fait, le rôle principal du directeur, c'est toutes les tâches administratives, le lien avec les parents, la municipalité, des tâches administratives très lourdes, hein, on les a entendues ces derniers mois, ces dernières années, demander de l'aide pour pouvoir les assumer. Ils sont parfois déchargés d'horaires de cours parce qu'ils doivent assurer ces tâches. Alors, le statut de directeur d'école, il fait l'objet de discussions parce qu'il donc, il doit animer l'équipe pédagogique, mais le projet de l'école, c'est pas lui qui tranche, il faut que ce soit une conciliation avec les autres enseignants. La loi, qui est le projet de loi, proposition de loi qui fait la navette en ce moment entre l'Assemblée et le Sénat, a commencé à parler d'autorité fonctionnelle. Ça veut dire quoi? Pour pouvoir trancher sur les questions d'organisation, donc la vie très pratique de l'école, mais toujours pas sur l'autorité hiérarchique. Là, pour l'instant, le directeur d'école, il est sur un pied d'égalité avec les autres enseignants.
Ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'il puisse y avoir des projets pédagogiques différents d'une école à l'autre. On pourrait imaginer que les projets soient les mêmes dans toutes les écoles.
Alors, ce n'est pas le projet pédagogique, c'est-à-dire que les programmes, c'est les mêmes pour tous. C'est le projet d'école, c'est-à-dire comment on organise les enseignements, comment on fait travailler les classes ensemble, comment les enseignants travaillent ensemble. Ça, c'est normal. C'est un travail d'équipe sur le terrain, en fonction des sensibilités des uns et des autres, mais ils doivent appliquer le même programme.
Marie, dans le privé, c'est différent, dans l'enseignement catholique, par exemple?
Oui, parce que là, il y a l'autonomie des établissements, et le chef d'établissement est un chef. Il a de l'autorité sur son équipe pédagogique. D'ailleurs, il est nommé, il est nommé dans l'enseignement catholique par le diocèse. Le chef d'établissement, il a un contrat, il a une lettre de mission, il a des moyens, on lui donne, et puis il doit gérer son équipe. Alors, il a une autorité d'un point de vue pédagogique sur le projet d'école, et d'ailleurs, les enseignants qui sont recrutés, alors, ils ont la même formation, les enseignants, que dans le public, ils sont d'ailleurs payés par l'État, mais ils postulent, et ils candidatent, ils ont un entretien. Et là, ils doivent adhérer au projet d'établissement. Puis la grosse différence d'un chef d'établissement dans l'enseignement catholique, eh bien, c'est qu'il évalue les enseignants. Il va donner aux autorités académiques son appréciation sur la pratique professionnelle des profs.
Les syndicats sont très puissants dans l'éducation nationale et on a entendu Virginie Acliouat et je rebondissais sur le mot abominable qu'elle disait. C'est vrai qu'il n'y a pas de nuance chez les syndicats, souvent le syndicat de l'éducation nationale, et c'est souvent non, c'est l'immobilisme.
Alors là, c'est surtout parce qu'ils défendent le principe d'égalité dans les mutations et les attributions de poste, c'est-à-dire que tout le monde est traité de la même manière, c'est-à-dire que c'est un barème, il y a des points, on gagne des points en fonction de son ancienneté, de son avancement de carrière, de son expérience, de sa situation familiale, et c'est les mêmes critères pour tout le monde.
Marie, vous restez avec nous, on va retrouver Samuel Auxerre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire du groupement de défense des idées des directeurs d'école. Merci d'être avec nous en direct dans RTL Midi. Directeur d'école, donc, vous dites plutôt oui, vous, pour choisir vous-même vos enseignants?
Je dis plutôt non pour choisir moi-même mes enseignants. Nous, les directeurs d'école, on est en attente d'un statut spécifique, d'avoir une reconnaissance, et c'est justement ce que propose la LOPRIAC autour d'un statut fonctionnel, c'est-à-dire de reconnaître notre métier, notre fonction, pour pouvoir la faire vivre dans une école. Très clairement, aller vers un statut hiérarchique, qui est celui de noter, embaucher ou licencier des enseignants ou autres personnels. C'est quelque chose de totalement différent et c'est pas notre demande actuelle, tout simplement parce que c'est le rôle qui est bien défini par l'inspection académique et par délégation, par les inspecteurs de l'éducation nationale. C'est leur cœur de métier et je pense qu'ils sont à même de l'exercer pleinement.
Une école, c'est pas une PME, c'est ce que vous voulez dire?
Une école, c'est si ça peut être une petite entreprise. Le terme ne choque pas.
Dans une entreprise, il y a un lien hiérarchique, il y a quelqu'un qui décide et qui choisit les collaborateurs.
Sauf que si je vous dis que ça ne choque pas, ça ne ressemble pas à la réalité. La réalité, c'est que l'école publique est un service public qui n'est pas régi de la même manière qu'une entreprise privée. Et le fait d'avoir dans les écoles un directeur clairement identifié, avec un statut qui soit spécifique, eh ben, c'est la manière de fonctionner, alors que mettre un directeur avec un statut hiérarchique, c'est-à-dire très clairement, je dirais le bâton et la carotte par rapport aux enseignants, c'est pas une manière de fédérer une équipe de la première manière.
Samuel Auxerre, l'idée elle a été proposée et évoquée hier donc pour 50 écoles laboratoires à Marseille. Ça servira à rien là-bas ?
Alors, encore une fois, on connaît par l'association du GDID un ensemble de situations un petit peu partout en France, dont on a un certain nombre de collègues marseillais. Moi, vous voyez, je suis à Cournon d'Auvergne, en plein milieu du Puy-de-Dôme. Je ne vais pas vous parler de la situation spécifique de Marseille. Je comprends très bien que les collègues là-bas sont dans des situations qui sont absolument très 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 compliqué. Les écoles sont dans des états qui sont voilà, s'il y a un plan d'investissement qui est fait dessus pour réhabiliter les écoles, c'est pas du tout un hasard.
Est-ce qu'il pourrait y avoir
Excusez-moi, juste pour finir de répondre à votre question, on a dans chaque zone ce qu'on appelle les zones REP plus, par exemple, les zones pour lesquelles il y a des moyens spécifiques qui sont donnés. Et sur ces postes-là et sur ces écoles-là, on a déjà un certain nombre de ce qu'on appelle des postes à profil. Donc en fait, ça ressemble à plus ou moins ce qui a été dit par le président de la République, c'est-à-dire qu'un poste à profil, il doit répondre à un besoin. Par exemple, dans une école, on a besoin de quelqu'un qui soit vraiment bien formé en anglais ou en informatique, ou alors faire partie d'un projet collectif au sein de l'école.
Bah merci Monsieur Auxerre, merci beaucoup Samuel Auxerre. Alors je remarque quand même que si les profs n'ont pas envie, si les directeurs d'école ne sont pas non plus favorables à ça, si les syndicats rechignent, effectivement ça fait quand même beaucoup d'handicap pour que ça se mette en place.
Après il faudra voir au niveau des 50 écoles en effet à Marseille, si là il y a des besoins. Les postes à profil c'est ça, hein, c'est recruter des enseignants parce que dans telle école on a besoin de tel profil et ça peut être le cas dans certains quartiers.
Est-ce que le patron de la droite, c'est toujours Sarko, Nicolas Sarkozy, plus exactement. Les candidats à la primaire se pressent pour aller le voir. Ils vont baiser l'anneau, comme on dit trivialement. Franck Louvrier, le maire de La Baule, qui est également son ancien conseiller, sera là avec nous dans une seconde. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Le sondage du jour.
C'est celui que lance LR aujourd'hui auprès de 15 000 sympathisants de droite. Les sondés devront répondre à une vingtaine de questions. Qui est le plus à même de rassembler? Qui a l'envergure?
Ça, c'était lundi matin sur RTL. Aurélie Herbemont évoquait cette grande enquête lancée par les Républicains à moins de 8 mois de la présidentielle pour tenter de départager les différents candidats à la primaire. Aurélie, on vous retrouve. Bonjour.
Bonjour.
Depuis lundi, vous avez mené votre propre enquête pour RTL et vous avez contacté tous les députés LR.
Eh oui, effectivement, puisqu'on ne savait pas jusqu'ici combien de députés roulaient pour tel ou tel candidat. Donc j'ai pris mon téléphone et puis je les ai tous contactés. Alors ils sont une petite centaine et donc je leur ai posé la question: est-ce que vous choisissez Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti ou Philippe Juvin? Donc les cinq, j'ai vraiment ciblé sur les cinq candidats qui sont soit à la primaire, soit candidats directement à la présidentielle comme Xavier Bertrand. Et donc ils sont 85 à m'avoir répondu. C'est pas exhaustif mais c'est quand même assez complet.
Et leur verdict?
Verdict, premier sur le podium, Xavier Bertrand. Alors, vous le savez, il a quitté le parti LR, mais 24 députés le soutiennent. Ça fait un quart du groupe, grosso modo. Valérie Pécresse arrive en numéro 2 avec 14 députés. Michel Barnier complète le trio avec 12 députés déjà conquis. Mais il a une marge de progression parce que ceux qui soutenaient, qui voulaient soutenir Laurent Wauquiez, j'en ai plusieurs qui m'ont dit que leur cœur pourrait finir par pencher du côté de Monsieur Brexit. Alors Éric Ciotti n'a eu que 3 voix dans mon enquête et j'ai 0 voix pour Philippe Juvin dans mon tableau Excel. Et au-delà du rapport de force entre les différents candidats, ce qui m'a frappé pendant cette enquête, c'est qu'une trentaine de députés n'ont toujours pas choisi, ça fait un tiers du groupe, qui n'a pas choisi son champion pour 2022. La tonalité chez ces indécis, ben c'est un peu on prendra le candidat officiel, n'importe lequel, tant qu'il y en a un seul et qui peut nous faire gagner.
Les catholiques vont à Rome pour voir le pape, les candidats à la primaire vont rue de Miroménil pour voir Nicolas Sarkozy.
Alors, rue de Miroménil, effectivement, c'est ce qu'a fait Valérie Pécresse hier. Xavier Bertrand, lui, aura son déjeuner fin septembre, le 20 septembre précisément. Ça peut aussi être au Cap-Nègre, puisque Michel Barnier...
Il reçoit tout le monde.
Il reçoit de toute façon...
Il ne peut pas se permettre de ne pas recevoir tout le monde.
Tous les élus qui demandent à voir Nicolas Sarkozy peuvent le voir.
Oui.
Donc
là,
les candidats aussi, ce sont des élus particuliers. Et c'est vrai que les candidats vont tous voir l'ancien président.
Juste un mot, stratégiquement, c'est la bonne solution de voir le soutien de Nicolas Sarkozy, Aurélie ?
Alors, pour l'instant, on ne parle pas de soutien, surtout. Ils vont tous le voir parce que ça reste une figure de la droite. Mine de rien, c'est quand
je
même le dernier président.
Je disais tout à l'heure, ils vont baiser l'anneau de manière un peu triviale.
Eh bien, il y a de ça parce que c'est le dernier président de la République de droite. C'est le dernier de la famille qui a réussi à entrer à l'Élysée. Donc, il faut aller chacun son tour pour surtout, non pas forcément s'attirer ses bonnes grâces, parce qu'il ne soutient personne, mais au moins... dire on a fait le boulot, on est allé voir Nicolas Sarkozy.
Il peut avoir un pouvoir de nuisance, c'est ce que vous voulez dire. Bah, si on savait qu'il n'aimait pas un des candidats, ça serait compliqué pour l'électorat de droite.
Il reste une figure de référence pour l'électorat de droite, pour les militants essentiellement, parce qu'on voit que dans l'électorat, c'est pas forcément sur.
On se souvient du score à la primaire.
20,7%, il avait fini troisième, terrassé par Juppé et Fillon.
Franck Louvrier, qui connaît, j'allais dire par cœur, Nicolas Sarkozy. Il faut savoir décoder, forcément. Bonjour, vous êtes le maire de La Boule, Franck Louvrier. Je m'aperçois que beaucoup de gens disent du bien en ce moment dans votre camp de Valérie Pécresse. Et je me demande si Nicolas Sarkozy n'a pas déjà choisi Valérie Pécresse.
Non, moi je crois qu'il n'y a pas de choix exprimé. Si vous voulez, il a fait d'abord le choix de ne pas faire de politique. Et vous ne l'empêcherez pas d'aimer la France et les Français, de se passionner pour la culture, notamment avec son livre qui va sortir. Mais au-delà de ça, je pense que Nicolas Sarkozy n'est plus le capitaine du pays. C'est le phare, d'une certaine façon, si vous me permettez cette image, étant maire de La Baule, c'est le phare qui éclaire certains de ses anciens ministres grâce à son expérience. Avec humour, en paraphrasant Jacques Séguéla, si vous n'avez pas eu avant 50 ans votre rendez-vous chez Nicolas Sarkozy, c'est que vous avez raté votre carrière politique. Mais au-delà de ça, je pense foncièrement que la rencontre chez lui ne vaut pas adoubement, mais vaut considération de sa part.
Mais il a choisi, du coup, lui, son candidat, non ?
Non, je ne le pense pas. Je pense qu'il regarde le paysage politique avec son expérience, quel sera le candidat qui émergera des périodes à venir, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année. On n'en sait rien aujourd'hui.
Ça mais va est-ce qu'il faut qu'il le choisisse, pardon, Franck Louvrier ? En fait, ma question était peut-être mal posée. Est-ce qu'il faut qu'il choisisse un candidat, que lui, la double, justement, comme on disait ?
Vous savez que c'est un électeur comme les autres et qu'il aura l'occasion de mettre
non,
un bulletin.
Non, ce n'est pas un électeur comme les autres, Franck Louvrier.
Mais il aura son choix, bien évidemment, et on verra quel sera le contexte du moment en fin d'année. Parce que, comme vous savez, en général, un candidat à l'élection présidentielle, il émerge entre novembre et janvier. Donc, on a largement le temps, en espérant que l'appel de La Baule soit entendu, c'est-à-dire celui de l'unité, comme vous le rappelez.
L'appel de La Baule. Franck Louvrier, on n'imagine pas, en tout cas, que Nicolas Sarkozy ne désigne pas un membre pour la présidentielle de sa famille. Et en disant cela, je pense aussi à une proximité qui existe entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez imaginer que Nicolas Sarkozy ne désigne pas un des candidats de la primaire de droite ?
Moi, je pense que Nicolas Sarkozy a toujours été fidèle à sa famille politique et à ceux avec lesquels il a travaillé pendant plusieurs décennies. Et donc, de ce fait-là, jamais les tempêtes ne l'ont séparé de sa famille politique d'origine, hein, depuis qu'il s'est engagé très jeune. Et donc, de ce fait-là, je ne le vois pas s'éloigner de cette famille politique, quel que soit le contexte.
C'est maintenant, clair. Dernière chose, est-ce que vous pensez que lui réfléchit parfois et il se dit « pourquoi pas moi ?»
Mais vous savez, dans la vie politique, tout est possible. Moi, je respecte son choix d'être en retrait. C'est un choix tout à fait honorable.
Donc il peut penser toujours qu'il y a une possibilité pour lui ?
Mais ce n'est pas lui qui pense, c'est les Français qui devront penser à un moment quel sera celui qui sera le plus à même de pouvoir rassembler et réussir à relever le pays. C'est
là et vous-même, vous pensez quoi ?
Bah, moi, j'ai toujours, j'ai toujours eu beaucoup d'amitié et d'admiration pour Nicolas Sarkozy, on dirait... Sarkozy un jour, Sarkozy toujours. Maintenant, je respecte son choix. Et quand vous aimez les gens, vous respectez leur choix personnel.
Bah merci Franck Louvrier. Je vous félicite pour le temps qu'il fait à La Baule aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'Ouest, paraît-il. M'a-t-on dit que ça a été parfois difficile. Mais aujourd'hui, il fait beau. Il y a du soleil sur la plage
exactement,
de La Baule.
Ça y est, le soleil apparaît.
Bon, bah c'est bien parce que les vacances sont terminées. Merci beaucoup Franck Louvrier. Merci bien évidemment à Aurélie Herbemont. Ça va être passionnant cette campagne électorale.
C'est toujours passionnant les présidentielles.
Oui, mais vous avez remarqué que Franck Louvrier n'écarte pas l'hypothèse plaise, Nicolas Sarkozy.
Il ne faut jamais rien écarter en politique.
Certes.
Mais Nicolas Sarkozy a quelques petites choses à régler avec la justice pour l'instant.
Ça ne nous avait pas échappé. Il est 12h59. Amandine le rappelle des titres. Il y aura également de la météo. Il fait beau. Formidable. Et il va faire beau ce week-end en plus. Alors
absolument.
Qu'on nous avait dit qu'il ne ferait pas beau ce week-end.
Ah, ça bon change.
C'est la pub.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute.